Mais ça donne, je vais vous faire un petit commentaire sur la synagogue.
Et qui dit synagogue dit aussi communauté juive. Donc je disais tout à l'heure à madame que la communauté juive de Châlons est très 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 ancienne. Alors bien sûr le Moyen-Âge, c'est là où il y a eu une population un peu plus importante, mais d'après certains écrits, et notamment d'après les écrits d'un certain comte Barthélemy de Senlis, mais il y a eu des confirmations également par d'autres personnes. Existait déjà, ou tout au moins il y avait une petite population juive au temps de Saint-Alpin. Et le détail qu'il donne, c'est que Saint-Alpin avait expulsé déjà à l'époque les juifs de Châlons pour installer à leur place une congrégation de moniales. C'est ce que dit monsieur le comte de Barthélemy. Et donc ils avaient confisqué la synagogue et les dépendances qui en relevaient. La synagogue ayant été transformée en chapelle. Mais on a eu, par exemple, en 279, d'après d'autres écrits, les Juifs étaient à Châlons, déjà en 279, et il y avait même une synagogue. Alors, dans le Pertois, Vitran-Pertois. Effectivement, dans le Pertois, il y avait quand même des populations assez éparses, mais réelles. Donc, d'une façon générale en France, la population juive en France, elle date eh bien, de la Gaule. Si on parle de la communauté juive de Châlons ou de la communauté juive de France, inévitablement on se rattache à l'histoire de France, inévitablement. Et on se rattache inévitablement à des personnages. Alors en ce qui concerne Châlons, ben, le personnage, c'était soit les comtes de Champagne, soit les évêques. Et lorsqu'effectivement les évêques avaient pleine possession de toutes les attributions temporelles et religieuses de Châlons, ils avaient donc tous les pouvoirs, c'était des seigneurs. L'évêque de Châlons était un seigneur et il avait donc des sujets. Et parmi ces sujets, il y avait des sujets, je dirais, inférieurs qui étaient des juifs, c'était ses biens. Donc il devait payer à l'évêque des droits, des redevances et c'était une source de profit. Donc il y avait les personnages, donc les évêques, et il y avait ensuite les rois. Parmi les rois que nous reconnaissons comme des rois ayant plus ou moins persécuté, ayant persécuté ou humilié les populations juives, on note Philippe Auguste qui a mis une expulsion vers les juifs en 1188, mais ça ne concernait pas Châlons, ni la Champagne, puisque ce n'était pas dans la royauté, dans la couronne impériale. Et cette expulsion de Philippe le Bel en 1187 s'est terminée en 1198. Les Juifs sont revenus. Il y a eu ensuite Saint-Louis qui est le premier à imposer aux Juifs du royaume la rouelle, donc un signe distinctif mis devant, un signe distinctif mis derrière. Vous pouvez venir, hein. Donc cette rouelle, on pense que c'est à la suite des croisades, puisque les musulmans avaient imposé aux croisés et aux juifs qui habitaient là-bas aussi un signe distinctif. Donc les juifs avaient la rouelle, et c'était assez particulier. Et ils avaient aussi un vêtement assez particulier et un chapeau. C'était le chapeau pointu. Il y a eu d'ailleurs une chanson à ce sujet, chapeau pointu, sur le tutu. Voilà. On voit bien ça dans les images du Moyen-Âge, des juifs avec le chapeau pointu. Il y avait donc Saint-Louis, donc Louis IX, puis il y a eu Philippe le Bel également. Mais je dois vous dire qu'auparavant, bien auparavant, vers les années 800 à peu près, 1700-1800, il y avait Charlemagne. Alors ça ne concerne pas bien sûr les juifs de Châlons, mais ça concernait les juifs d'une façon générale. Il y avait Charlemagne, et Charlemagne avait beaucoup d'attention vers les juifs. Il avait même nommé un juif qui s'appelle Isaac. Il l'avait nommé comme représentant diplomatique de son royaume à Bagdad. Nous avons eu donc ensuite Philippe le Bel. Philippe le Bel, eh bien, il est assez particulier, non seulement envers les juifs, mais très particulier envers les Lombards, envers les Templiers. Et il a émis, lui aussi, un avis d'expulsion en 1306, donc général. Et là, ça concernait les Juifs de Châlons, cette expulsion, puisque la Champagne et Châlons étaient rentrés dans le giron de la royauté, du royaume de France, parce que Philippe le Bel s'est marié avec Jeanne de Navarre, qui était en même temps comtesse de Champagne. Donc il s'est marié avec Jeanne de Navarre, Jeanne de Navarre lui a apporté dans sa corbeille de mariage, eh bien, la Champagne et la Navarre. Et quand ils se sont mariés, Philippe le Bel a imposé aux Juifs une participation financière qu'on a appelée le don de joyeux événements. En réalité, c'était une taxe pour payer les frais de mariage. Et Philippe le Bel est très connu comme étant quelqu'un qui était absolument intéressé par l'argent. Donc les Juifs l'intéressaient parce qu'ils prenaient leur argent, les Lombards l'intéressaient parce qu'ils étaient des prêteurs et ils avaient de l'argent, et bien évidemment, après l'expulsion, une année après l'expulsion, c'est-à-dire en 1307, il s'est attaqué aux Templiers. Et il les a donc décimés et a pris tout leur bien. Il faut vous dire également qu'il y a eu une période où les Juifs ont vécu des moments difficiles, c'est au moment des croisades. Deux évêques de Châlons participent aux croisades. Il n'y a pas eu vraiment de conséquences par rapport aux Juifs de Châlons, par rapport à cette expédition, parce que les croisades s'attaquaient plutôt en Rhénanie, allaient plutôt en Rhénanie, s'attaquaient donc aux communautés juives du coin. Par contre, ces deux évêques qui ont participé aux croisades, alors c'est M. Chabot qui est le président de la communauté.
Bonjour. Voilà. Merci. Ça va ?
Ces deux évêques qui ont participé aux croisades, et il y en a un qui a participé à la deuxième croisade, c'est en 1147. Il est mort en 1151, c'était Saint-Barthélemy de Senlis. Il est décédé donc en croisade en Palestine, ce qu'on appelait à l'époque la Palestine, et et le second, c'était Guy III de Joinville, qui est décédé également en 1191 en Palestine, et il est enterré dans la vallée de Josaphat. Voilà, donc deux évêques de Châlons ayant participé aux croisades et qui sont décédés là-bas. Et il y a eu, par exemple, quelques années auparavant, en 1147, Saint Bernard, qui était évêque de Clairvaux, qui était venu à Châlons. Il devait rencontrer les émissaires d'un baron allemand, Conrad, de Hauenstaufen, déjà on avait un nom bien allemand, et des représentants donc du roi, et il a prêché aux jars, il a prêché pour la croisade. Voilà. Il a prêché pour la croisade. Donc c'est vrai que Châlons a baigné dans cet univers de religion, de croisade, etc. Et puis après l'expulsion de 1306 de Philippe le Bel, les Juifs étaient habitués à ce genre de choses. Beaucoup sont partis parce qu'ils ne voulaient plus vivre sous la royauté. Mais la royauté, effectivement, dans le temps, les a rattrapés, parce que le royaume de France s'agrandissait, et en s'agrandissait, eh bien, il englobait des territoires où il y avait déjà des Juifs. Et nous avons donc, en 1294, il y avait Charles VI, qui, à son tour, a expulsé des Juifs, mais là, il n'y en avait pratiquement plus. Par contre, en 1306, pas loin, dit-on, de 100 000 Juifs se sont enfuis, ont été expulsés. Et le roi, donc, a confisqué tous leurs biens, immeubles, et même les créances. Et lorsqu'effectivement, quelques années après, on est revenu sur cette expulsion, c'est en 1316, peu de Juifs sont revenus. Donc, pour la dernière expulsion qui était en 1394, Charles VI, il y avait peu de Juifs. Donc ils se sont enfuis, beaucoup sont allés en Savoie, beaucoup sont allés en Bourgogne, en Provence, d'autres sont allés en Alsace, sont allés en Lorraine. Donc ils sont sortis du territoire français, si je puis dire, parce que ça ne relevait pas de la France, ils étaient à l'abri. Mais au fur et à mesure que l'autorité centrale s'est élargie, que l'État s'est affirmé, des territoires ont été pris, il y avait de nouvelles populations qui subaient à nouveau jusqu'à les dernières années, quoi. Donc on peut dire que l'histoire des Juifs de Châlons, l'histoire des Juifs de Champagne, l'histoire des Juifs de France est intimement liée à des individus. Et donc, jusqu'en 40 d'ailleurs aussi, à des individus. Alors que nous avons par exemple une prière que les Juifs doivent réciter, une prière en français, que les Juifs doivent réciter tous les samedis matin et pour toutes les fêtes. Et cette prière, c'est tout simplement la prière pour la République française, pour la bénédiction de la République française et pour la bénédiction du peuple français. Donc c'est une prière qui est affichée là-devant. Et c'était tout simplement une prière qui date des années 1850 à peu près. 1850, je dis des bêtises. Oui, aussi 1850, par rapport à l'émancipation des Juifs français, puisque la laïcité a permis aux Juifs de vivre pleinement. Donc on les appelait plus Juifs, parce que lorsque dans l'ancien temps, et notamment au Moyen-Âge et par la suite, on les appelait Juifs, Juifs ça voulait dire étrangers. Alors ils étaient étrangers à la religion chrétienne, mais ils étaient étrangers au pays. Donc on disait Juifs, c'était l'étranger. Et lorsque les Juifs ont été émancipés, donc bien sûr, après 1793, ils ont été émancipés, puis par la suite, avec Napoléon Ier, il y a eu cette prière, les Juifs ne s'appelaient plus Juifs, c'était tout simplement des Français de confession israélite. C'était des Israélites, voilà. Donc, moi, personnellement, si on me demande, vous êtes Juif, je dis, je suis israélite. Ma nationalité, elle est française. Tandis qu'avant, c'était des étrangers, quel que soit le pays. On parlait de Juifs aussi bien en Autriche, en Alsace, sauf en Provence également, bien sûr, ou dans d'autres pays étrangers, on parlait de Juifs parce qu'ils n'avaient pas la nationalité du pays. Voilà. Pendant 2-3 siècles, il n'y avait pratiquement plus de Juifs. Et puis, progressivement, pour Châlons, vers les années 1800, alors, à la Révolution 1789, il n'y avait que 2 familles juives à Châlons. Et donc, progressivement, vers les années 1800-1810, il y a eu des Juifs qui ont commencé à arriver, puis un peu plus en 1830-1840-1860. Mais en 1840, il y avait quand même une population juive qui renaissait. Et donc là, il y a eu effectivement, je vous dis tout ça, c'est pour en venir à la synagogue. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de synagogue, c'était simplement soit des oratoires, soit des petits lieux de prière et d'études. Et donc en 1848, il y avait une population juive qui habitait, il y avait rue des Juifs, qui était du Moyen-Âge, cette rue-là, et la rue de la Petite Juiverie, et puis qui habitait rue de Marne. Il y en avait pas mal qui habitaient rue de Marne. Et cette population avait... et son cimetière, puisque ce cimetière a été créé en 1818, le cimetière de l'Est, pour ceux qui connaissent Châlons. Il y a une toute petite partie à l'entrée à droite, qui est un carré juif. Et puis ensuite, on a eu en 1870 la guerre entre la France et la Prusse, l'Empire allemand, et donc l'aliénation de l'Alsace-Lorraine. Donc, 2 ans après, en 1872, un décret est sorti en disant aux habitants de l'Alsace-Lorraine, aux habitants juifs et non-juifs, je parle aux Français qui habitaient en Alsace-Lorraine, vous choisissez, soit vous restez en Alsace-Lorraine et vous êtes allemand, soit vous voulez rester français et vous quittez l'Alsace-Lorraine. Donc, beaucoup de Français ont quitté l'Alsace-Lorraine pour s'établir ailleurs, dont certains protestants et juifs sont venus à Châlons. C'est pour ça qu'on a le temps protestant en face. C'était pratiquement à la même période, à 4 ans de différence. Le temple protestant a été créé 4 ans après la synagogue. Et donc là, la population juive a doublé. C'est relatif, mais elle a doublé. Et donc le président de l'époque de la communauté juive s'est adressé donc, au ministère et lui a demandé si c'était possible de créer une synagogue. On lui a dit oui. Et donc il s'est adressé à la communauté, au consistoire de Lille. Parce que cette circonscription dépendait de Lille. Lille a donné son accord et a même participé financièrement, a acheté un terrain. C'était une ancienne brasserie. C'est pas par hasard si derrière, il y a le restaurant des Ardennes. Donc une ancienne brasserie. Et donc, ils devaient construire cette synagogue. Mais le ministre de l'époque, qui est en même temps ministre des cultes, avait demandé au préfet de faire une petite enquête pour voir s'il n'y avait pas d'opposition locale à la création de cette synagogue, à la construction de cette synagogue. Donc le préfet a demandé des avis aux uns et aux autres, et notamment à l'évêque de l'époque, qui était Monseigneur Maignan. Et Mgr Maignan a répondu au préfet en lui disant « Je ne vois pas d'objection à ce qu'il y ait, une synagogue à Châlons, d'une part parce que les chrétiens ne se convertissent pas, et d'autre part, s'ils veulent s'agrandir. Mais je pose une condition, il ne faut pas que les juifs, il parlait des juifs, il ne faut pas que les juifs interdisent le passage de la procession des chasses rue Locher. C'est quoi la procession des chasses? La procession des chasses, c'est donc la procession des reliques. Alors c'était les reliques des trois grands saints de Châlons. Donc il y avait les reliques de Saint-Alpin, les reliques de Saint-Alpin, Saint-Jean et un autre prénom, Saint, il y en avait trois, les reliques de ces trois. Et donc le préfet a saisi le président de la communauté des Juifs en lui disant, voilà, mais en espérant que la possession... Alors le président a été vexé en disant, bon, enfin, si on demande l'agression d'une synagogue, c'est pas pour prier dans la rue, c'est pour prier à l'intérieur, et par conséquent, il n'y a aucun obstacle à ce que la possession puisse passer. Et donc, effectivement, l'autorisation a été donnée par le ministre, et la synagogue a été construite. Pied de nez de l'histoire, en 1881, le maire de Châlons-Champagne, qui s'appelait Hippolyte Faure, qui était socialiste, a interdit la procession des chasses, en disant que c'est contraire à la paix publique, et donc ça peut créer un trouble à l'ordre public, par conséquent, j'interdis la procession des chasses. Donc depuis, la procession des chasses a été interdite, et les reliques donc sont exposées dans l'église. Voilà, je vais faire une parenthèse. Et donc, les Juifs ensuite ont vécu leur vie à Châlons. C'était surtout du négoce. Le 12 octobre 40, les Allemands sont rentrés à Châlons. Et là, il restait peu de Juifs parce que beaucoup ont pressenti qu'il y allait se passer quelque chose. Ont préféré partir et se réfugier, je dirais, en province. Malheureusement, certains sont restés et ont été attrapés. Et on a la liste de quelques-uns ici, mais ce n'est pas tous. Ce n'est pas tous les Juifs de Châlons. Donc, également pour la guerre de 14-18, je ne sais pas, je n'étais pas là, mais je peux vous dire, pour la guerre 39-45, il y avait plus de Juifs que cela. Pourquoi il y en a peu ici et pourquoi il y en a peu là? Tout simplement parce que c'était des gens qui étaient connus par la communauté ou qui connaissaient la communauté. Donc, quand il y a eu des décès, ils le disaient à la communauté et au président. Mais il y avait d'autres Juifs qui ne le disaient pas. C'est pour cette raison qu'au cimetière, au carré juif de Châlons, on trouve des tombes où il y a marqué « déporté à Auschwitz »,« déporté », et on ne sait pas qui c'est. Ou bien on trouve « soldat mort pour la France », mais on ne sait pas qui c'est. Alors, la famine ne s'est pas prononcée. Donc, en principe, il y a plus de gens qui sont décédés en 1945, qu'on retrouve très certainement au cimetière national, route de Suippes. Et puis là, il y a des gens qu'on ne voit pas, parce que lorsqu'il y a eu des déportations, une partie de la famille aussi s'est sauvée juste avant la déportation et n'est plus revenue à Châlons. Donc on ne sait pas. Alors il y a des noms qui sont assez particuliers. Vous voyez Fribourg, qui n'est pas un nom spécifiquement juif, ou la jeunesse, qui n'est pas spécifiquement juif. C'est tout simplement des juifs qui ont changé de nom pour se protéger des Allemands, ce qui ne les a pas empêchés. Et un jour, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 ans, c'était la journée du patrimoine et j'expliquais. Puis il y avait un monsieur, à la fin de la discussion, il vient me voir et puis il me dit, vous savez, monsieur, il y a ce nom-là, eh bien c'est ma famille. Alors je dis, ah bon, vous êtes juif? Il me dit non. Et puis, je dis, il y a le nom de votre famille qui est ici, qui est mort en 40, qui a été déporté, et vous n'êtes pas juif? Il me dit non. Alors il me dit, j'étais, mais juste avant la prière des Allemands, mes parents m'ont converti pour me protéger. Il me dit, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà, donc il est chrétien, et on le voit, il vient nous voir souvent, c'est souvent. Voilà, la communauté juive actuellement est à un niveau, disons, très bas, puisqu'il n'y a pas de jeunes, il n'y a plus de jeunes, et s'il y avait des jeunes, eh ben, ils allaient par la suite suivre leurs études à Paris, à Strasbourg, voire à Reims, ou à Nancy, donc il y en a peu. Cette communauté s'est un tout petit peu agrandie en 1962, du fait de l'arrivée de juifs d'Afrique du Nord. Alors j'ouvre une parenthèse, les juifs d'Afrique du Nord étaient juifs en 1870. Alors, André Chabat, qui est président, et moi-même et d'autres, nous sommes d'Algérie. Donc en 1870, nos parents, nos grands-parents effectivement, ou nos arrière-grands-parents, étaient juifs algériens, ils n'étaient pas français. Mais au même moment, les juifs qui étaient en France étaient français. Hein, en 1830, les Juifs étaient... Avant 1830, les Juifs qui étaient là, en Algérie, n'étaient pas français. En 1870, les Juifs ont accepté ce qu'on appelle le décret Gambetta ou le décret Crémieux. Gambetta étant le Premier ministre, le président du Conseil. Ils ont accepté le décret Crémieux. Que signifie le décret Crémieux ? Et l'acceptation, ça signifiait pour les Juifs accepter le code civil et ne plus accepter et ne plus vivre sous l'emprise de son statut personnel. Donc ça fait une sacrée différence puisque les Juifs d'Afrique du Nord avaient les coutumes arabes, les coutumes musulmanes, c'est-à-dire le statut civil et notamment les problèmes de succession, les problèmes de mariage, les problèmes de divorce, etc. C'était le droit coutumier et le droit ancestral. Pour les musulmans, on disait que c'était plutôt la charia. Mais ça se rapprochait en ce qui concerne les Juifs. Par contre, en 1870, les Juifs qui étaient en France, c'était le code civil. Donc les Juifs de France, quand on leur a proposé, les Juifs d'Algérie, quand le gouvernement Gambetta leur a proposé, le décret Crémieux, mais c'était le gouvernement Gambetta leur a proposé de choisir, les Juifs se sont dit, mais il n'y a aucune raison qu'il y ait des Juifs en France qui aient accepté de vivre sous le régime du code civil, pourquoi nous on ne l'accepterait pas? Et donc ils l'ont accepté et ils sont devenus Juifs. Donc en 1962, ils ont quitté l'Algérie, comme beaucoup d'autres personnes, et sont venus s'installer en France. C'était pour eux un exil, puisque beaucoup ne connaissaient pas la France. Et donc ces Juifs-là ont augmenté un petit peu le nombre de Juifs à Châlons, et finalement c'est grâce à eux, ce Shabbat par exemple, qu'il y a des offices pour toutes les fêtes, il y a des participations de la synagogue et de la communauté pour des actions culturelles, pour des manifestations culturelles. Donc, progressivement, les choses se passent, je dirais gentiment, mais c'est vrai, il n'y a pas de relève. C'est une communauté juive qui est très particulière, elle est très singulière. Très singulière en ce sens que ce n'est pas une communauté orthodoxe. Si les orthodoxes veulent venir, ils sont les bienvenus, mais vous pouvez dire qu'on est très libéral. Très très libéral, beaucoup d'entre nous sont mariés à des non-juifs, des non-juives, et il y a des personnes qui ne sont pas juives du tout, qui viennent à la synagogue. Donc il y a des gens qui se disent juifs, mais qui ne sont pas religieux, qui sont agnostiques, qui ne sont pas religieux, et qui viennent à la synagogue parce qu'ils se disent juifs, c'est-à-dire ils font partie d'un peuple. Voilà, leurs aïeux, leurs ancêtres étaient juifs. Mais ils sont français, bien évidemment, mais ils ne sont pas religieux. Par contre, il peut y avoir une ou deux familles qui sont très religieuses, et puis il y a d'autres, une bonne partie, qui ne l'est pas, hein, qui en tout cas pas pratiquante. Donc on est singulier en ce sens que nous sommes très libéraux, voilà, très très libéraux. Et donc la personne soit religieuse, ne soit pas religieuse, soit athée, et veut venir dans une synagogue, elle est la bienvenue. Voilà. Donc on ne peut pas être, je dirais, plus tolérant. Alors, je disais aussi en employant ce mot de tolérance à une réunion que personnellement je n'acceptais pas qu'une société soit tolérante par rapport à une minorité, parce que pour nous juifs, on a tellement été tolérés qu'on s'en souvient de cette tolérance avec les expulsions, les oppressions, etc. Moi je préfère parler de respect d'une communauté ou de respect d'une minorité, ou du respect d'autrui, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc, au niveau de cette synagogue, il y a une communauté qui existe. Cette communauté permet le fonctionnement de la synagogue pour des activités culturelles. Donc, il y a des fêtes, mais il y a aussi des activités culturelles, donc des manifestations plutôt laïques, avec la mairie. Il y a aussi des visites de nombreux, soit de collèges, de lycées. La dernière fois, c'était la brigade mécanisée qui est venue, il y avait une trentaine de personnes. Je dirais, notre façon de voir les choses, de façon de voir la religion, permet une adaptation facile de la communauté et de la synagogue dans la cité. Voilà ce que j'avais à dire. Je voudrais simplement dire qu'il y a deux personnages dans Châlons qui sont connus. Il y avait donc Pierre Dac, qui s'appelait en réalité Isaac. Son père était boucher rue de Marne. Il habitait rue de Marne. Et il se plaisait à dire, quand on lui posait la question... Voilà. Et quand on posait la question à Pierre Dac, « Ah, vous êtes juif, hein, bon. Et vous êtes né où ?» Et il se plaisait à dire, « Je suis né à Châlons, sur Marne. » Voilà, non pas Chalon-sur-Marne, mais Chalon-sur-Marne. Puis il y avait un autre éminent économiste, mais lui c'était un peu plus avant, c'était vers 1848, 1850, 1870 pour ses écrits, c'est Neimark, Alfred Neimark. Il y a une rue Alfred Neimark, qui est un économiste qui a écrit donc des livres sur Turgot et des livres sur Condorcet. Et c'est lui, lors de l'inauguration de la synagogue de Chalon en 1875, il a offert à la synagogue un rideau semblable à celui-ci, mais ce n'est pas l'original, hein, semblable à celui-ci. Il a fait don de ce rideau. Derrière ce rideau, il y a effectivement la Torah, c'est le Pentateuch qui est là derrière. Voilà. Alors, vous avez remarqué, comme vous venez à la synagogue, on est surpris de voir une façade qui est très orientale. Effectivement, tout le monde est surpris parce que ce n'est pas le type des constructions des édifices religieux dans cette partie, dans cette Europe, dans cette partie de la France. Et lorsqu'il y a eu effectivement la soumission des architectes, il y a eu plusieurs architectes, dont un, Vanni, qui a présenté cette façade, le jury qui a choisi lui a dit « Mais pourquoi vous faites une façade aussi orientale ?» C'est très oriental, puisque certains, quand ils voient, ils pensent à une mosquée. Eh bien, il dit « Je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès. J'ai accentué le côté oriental, parce qu'une synagogue, ça représente le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem est en Orient, donc j'ai accentué le côté oriental de la façade. » Vous remarquerez sur les murs, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de peinture, etc. Parce que dans la religion juive, il n'y a pas de représentation de l'humain. Donc on ne voit pas de gens, de photographies, on ne voit pas bien sûr de statues. Mais il y avait des couleurs avant la guerre, il y avait des couleurs particulières. C'est un peintre chalonnais qui avait peint des couleurs chatoyantes, mais ça a été supprimé. Quand il y a eu les Allemands, ça a été complètement ravagé. Nous avons tout à fait en haut une rosace. Cette rosace, au centre de la rosace, il y a le décalogue, les tables de la loi, donc les 10 commandements. Dans ce décalogue, il y a d'un côté des commandements qui s'adressent à l'homme, qui concernent l'homme, et de l'autre côté, il y a des commandements qui concernent Dieu. Autour de ce décalogue, donc les tables de la loi, autour de ce décalogue, il y a vers le nord, il y a le chandelier. Il y a un chandelier à 7 branches, qui est différent de celui que vous... Une menorah, qu'on appelle une menorah, qui est différent de ce chandelier à 8 branches. Ce chandelier à 8 branches, c'est un symbole d'un événement religieux et d'un événement historique, au temps des Grecs. Donc je reprends au-dessus, c'est la menorah dont c'était un chandelier à 7 branches, qui était en permanence allumé dans le lieu saint du temple de Jérusalem. Entre parenthèses, le temple de Jérusalem a été détruit deux fois, en 586, et une deuxième fois avec Titus, en 70 après Jésus-Christ. Et on ne l'a pas retrouvé, ce décalogue. Donc il y avait 7 lumières. Les 7 lumières représentaient les 7 jours de la création, et la permanence de la lumière constamment, ça signifiait la présence divine. Il n'y a plus de temple, mais dans les synagogues, vous remarquerez, à gauche et à droite, il y a deux petites lumières qui sont allumées. Vous voyez ?
Celle-ci et celle-là. Voilà. Elles symbolisent un petit peu la menorah.
Dans l'église, il y a aussi une bougie qui est allumée. Donc, en permanence, c'est allumé, même si on n'est pas là, si c'est fermé, s'il n'y a pas de lumière, c'est toujours allumé. Donc, ça représente la permanence de l'Esprit divin, la permanence de Dieu. Sur le côté gauche, oui, on voit une espèce de buisson avec des flammes, c'est le buisson ardent. Ça concerne Moïse. En bas, vous voyez des tentes, ça ne représente pas Deauville. Ça représente un fil, mais en réalité, ça représente la traversée du désert du Sinaï des Juifs qui quittaient l'Égypte pour aller au pays de Canaan. C'était les tribus, les fameuses tribus. Donc, lorsque ces tribus ont traversé le désert de Canaan et sont arrivées à Canaan, eh bien, il y a eu une répartition géographique du lieu de résidence des tribus. Donc, il y avait 12 tribus, chacune avait un territoire. Sur la droite, à côté de la tente de Deauville, vous avez ce qu'on appelle la Torah. La Torah, donc, c'est le livre des commandements, et c'est aussi le Pentateuque, qui est derrière ce rideau. Il y a une espèce de niche qui est orientée vers Jérusalem. Donc, dans toutes les synagogues, vous avez un rideau qui abrite la Torah, donc le Pentateuque, les commandements, et c'est orienté vers Jérusalem. Vous avez en haut, sur la droite, au-dessus de la Torah, il y a donc encore, ça représente, ça, il semble que ça représente des flammes et un buisson, c'est pas du tout ça, ça représente tout simplement le sacrifice d'Abraham, c'est-à-dire Abraham qui allait sacrifier son fils Joseph. Et voilà, c'est les, comment dirais-je, des représentations de la Bible. Au-dessous, vous avez un carré à l'intérieur duquel il y a 12 petits carrés, qu'on appelle le pectoral. Le pectoral, donc, c'était un ornement que portait le saint prêtre du temple de Jérusalem, qui était un Kohen. Les Kohen, c'était une tribu, et qui n'avait pas accès à un territoire, mais c'était les personnes, la tribu, qui était responsable du rituel du temple. Donc le grand prêtre portait ce pectoral avec les 12 tribus. Ces 12 tribus ont constitué le royaume de Jérusalem. Il y avait le temple, et ces 12 tribus, c'était une fédération. Cette fédération est devenue un royaume avec David et avec Salomon, et ensuite avec les descendants, et notamment avec le fils de Salomon, ces tribus ne s'entendaient plus, et il y a eu séparation. Il y a eu les tribus du Nord, il y en a eu une dizaine, qui a créé le royaume d'Israël, avec Samarie comme capitale. Et le sud, c'est le royaume de Juda, avec notamment la tribu de Juda et de Benjamin, avec Jérusalem comme capitale. Donc il y avait ces deux pays qui s'unissaient lorsqu'il y avait des attaques extérieures. Mais le pays d'Israël, donc le nord, les 10 tribus du nord, avec Samarie, a été envahi par les Assyriens, Chaldéens, et puis ensuite les Mésopotamiens, avec Nabucodonosor, ont détruit le royaume du sud, donc de Jérusalem, en 586. Il y a eu ensuite, disons, ce peuple... Donc là aussi, il y a eu des exils. Chaque fois que les Juifs étaient battus en Judée-Samarie, il y avait déjà des exils. Et puis lorsque les temples, notamment en 70, le temple a été détruit, là c'était le grand exil, d'autant plus que les Romains interdisaient aux Juifs d'habiter Jérusalem. Donc les Romains ont appelé le pays de Judée-Samarie, l'ont appelé Palestine, parce que sur la côte il y avait des Philistins, là ça vient de ce nom-là. Et puis, ils ont appelé Jérusalem Capitolina, Aelia Capitolina. Donc, en fonction du désir de Titus et des Romains. Alors, nous avons ensuite, au-dessous, il y a une espèce de bandeau que vous voyez. C'est également un bandeau qu'avait le prêtre sur son front. Et ce prêtre était l'unique personnage qui avait droit d'entrer dans l'Arche Sainte pour lire la Torah. La Torah, donc, est dans cette niche, n'est lue que pour les fêtes et les samedis matins. Hein, c'est bien ça. Voilà. Donc, ils font un rabbin. Donc nous n'avons pas de rabbin, donc ici il n'y a pas de lecture, sauf s'il y a un rabbin, notamment pour une fête, alors il vient de lire. Sinon on ne lit pas. Nous avons ce chandelier, donc, et je vais terminer par là, c'est un symbole religieux et historique, c'est tout simplement la suite de la conquête de la Judée par Alexandre. Et lorsqu'Alexandre est mort, ses généraux se sont partagés son royaume, son empire, et il y avait deux généraux, un qui s'appelait Séleucus et l'autre qui s'appelait Ptolémaïe. L'un a pris l'Égypte et puis ce qui l'entourait, l'autre a pris la Syrie et puis l'arrière-pays. Ces deux sont entrés en lutte, les Séleucis ont gagné, ont battu, et ils ont envahi la Palestine, enfin, ce qui n'était pas encore la Palestine. C'était donc en 164 avant Jésus-Christ. Ils ont envahi et ils ont souillé le temple de Jérusalem. Ils ne l'ont pas détruit, mais ils ont souillé le temple de Jérusalem. Et là, le prêtre, avec ses enfants, et c'est l'histoire des Maccabées, de Judas Maccabée, se sont soulevés, ils ont soulevé le peuple, et le peuple a lutté contre les Grecs, et ils ont réussi à chasser les Grecs, donc le pays d'Israël à nouveau a été indépendant. Ils ont voulu donc célébrer cette victoire au temple de Jérusalem, mais ce temple avait été souillé, donc il a fallu le purifier, et il a fallu effectivement à nouveau rallumer une menorah qui était éteinte, et cette menorah qu'il fallait allumer, ben, il fallait aussi de l'huile sainte, puisque ces bougies étaient alimentées par de l'huile sainte. Or, c'était des prêtres qui fabriquaient cette huile sainte, et il fallait 8 jours pour avoir l'équivalent d'un remplissage pour les sept branches. Et il n'y avait pas d'huile. Et au miracle, quelqu'un a trouvé une petite fiole d'huile, toute petite. Donc lorsque les prêtres sont réunis pour voir, ils se sont dit, mais ça ne va permettre à la menorah de brûler que pour un jour. Et il faut que ça brûle constamment. Et ils ont décidé quand même de mettre cette huile-là, et le miracle, voilà, c'est le côté miraculeux de la chose, a duré 8 jours, ce qui a permis aux prêtres de fabriquer de l'huile pour à nouveau maintenir la lumière sur cette menorah. Donc ça représente, cette menorah représente un symbole religieux et un symbole surtout historique, puisque les Juifs et les Maccabées ont chassé donc les Grecs du territoire. Ceci a eu lieu en 162 avant Jésus-Christ. En 162 avant Jésus-Christ, donc il y a plus de 2000 ans, et on continue toujours aujourd'hui à célébrer cette fête, parce que c'est une fête qu'on appelle Hanouka. Et ce grand chandelier à 8 branches s'appelle Hanoukia. Donc les 8 branches, c'est les 8 jours qui ont duré, les 8 jours
de luminosité,
voilà. Et il y a un 9e qui est ici, qu'on appelle le témoin, qui permet d'allumer chaque jour. Donc pendant 8 jours, dans toutes les synagogues de France, de Navarre et d'ailleurs, on allume une bougie. Et une anecdote, enfin réelle, c'est qu'on a pu confirmer la présence de juifs chinois à Kaifeng grâce à ça. On l'avait déjà dit, c'était dans les années, je ne sais plus, 1750 peut-être, il y avait eu un jésuite qui était allé en Chine, et à Kaifeng, il a découvert des juifs, donc des juifs chinois, hein, avec les yeux bridés et avec la natte à l'époque, ils avaient la natte. Et les juifs l'ont pris pour un rabbin, parce qu'il était venu avec des images des saints, de la Sainte Vierge, etc. Et les juifs ont mis parler de Dieu, et qui mangeaient du poisson, autre chose. Ils l'ont pris pour un rabbin, et puis il leur a dit, non, je ne suis pas rabbin, je suis chrétien. Et ils ne comprenaient pas, parce que ces juifs-là ne connaissaient pas la chrétienté. Il n'y avait que des Chinois, des Chinois et des musulmans. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y avait des touristes qui ont visité Kaifeng, et ces touristes sont allés dans une rue et sont entrés dans une maison, et ils ont vu, c'était l'époque de Hanouka, de la fête de Hanouka, ils ont vu donc des bougies allumées. Et donc parmi ces touristes juifs, l'un d'eux a demandé au guide, pourquoi il y a des bougies? Le guide a posé la question à ces Chinois, pourquoi vous allumez des bougies? Et les gens ont répondu, on allume ça tous les ans, je ne sais pas pourquoi. Mais nos parents allumaient ça, et puis nos grands-parents allaient l'allumer, et puis nos arrière-grands-parents. Bon, ils n'ont pas fait attention. Et puis ils sont allés, ils ont continué leur visite, ils sont allés visiter encore notre coin, et il y avait là aussi des juifs, en fait des gens, des Chinois, qui eux aussi, chez eux, avaient ces bougies qui étaient allumées. Et là, on leur a demandé pourquoi. Et là aussi, ils ont répondu, nos parents faisaient ça, nos grands-parents faisaient ça, donc on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait des descendants de juifs chinois. Eh bien, l'histoire rattrape tous ces événements parce que il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 8 mois à peu près, il y a une dizaine de Chinois de l'université de Pékin qui ont demandé à aller en Israël suivre dans une académie religieuse des cours de religion parce qu'ils veulent se retrouver la religion de leurs ancêtres. Et puis, il y en a d'autres qui sont allés, qui se sont mariés. Et si vous allez un jour en Israël, et si vous allez à Jérusalem, vous pouvez avoir comme guide une Chinoise, qui est une descendante de ces Juifs chinois. Elle a préféré vivre en Israël. Elle est citoyenne israélienne. Elle parle majoritairement chinois. Et quand il y a des touristes chinois, c'est elle qui les accueille. Et elle peut parler de son expérience. Voilà, si vous avez des questions, parce que sinon, des questions religion, c'est M. Chabat. Je ne suis pas spécialiste de la religion. Donc moi, c'est plutôt l'histoire, et M. Chabat,
non,
c'est
la religion. Il faut quand même remercier notre vice-président, qui est notre mémoire historique, et en même temps, qui est notre pilier de cet édifice. Sans lui, il n'y aurait plus de communauté juive. Ah, mais il faut le dire, je crois que c'est très important de le dire. Donc voilà, c'est ce que je voulais surtout souligner. Sur le plan, par exemple, religieux, je ne pourrais que répondre à certaines de vos questions, bien que je ne sois pas rabbin. Il faut bien préciser que je n'en ai pas les compétences. Hein. Le rabbin pourrait vous donner tous les détails. Ce que je peux vous dire, c'est simplement le quotidien que nous vivons, que nous avons vécu, avec nos parents, nos traditions, nos us et coutumes qui se perpétuent, comme dit notre ami Georges Rouge, qui se perpétuent de génération en génération. Et aujourd'hui, on peut dire que ce qui s'est passé il y a plus de 3000 ans, donc je laisse le côté historique à notre ami, se perpétue encore aujourd'hui. Donc ça prouve qu'il y a une certaine récurrence des traditions qui continuent aujourd'hui. Alors, ce que vous voudriez savoir peut-être, c'est la façon dont sont élevés les petits-enfants juifs, pourquoi y a-t-il la circoncision, pourquoi y a-t-il une bar mitzvah. Alors la bar mitzvah, c'est chez nous, c'est la communion, bien sûr. Alors, il faut savoir que lorsqu'il y a une circoncision, il faut que l'enfant soit né de père, de mère juive. Même si le papa n'est pas juif, l'enfant est juif par la mère. Ça, c'est la tradition juive. Donc, cet enfant peut être circoncis sans problème. Voilà. Ensuite, eh ben, à 13 ans, on fait faire là ce qu'on appelle la bar mitzvah. La bar mitzvah, c'est en quelque sorte l'entrée dans l'âge adulte de l'enfant. Et c'est là où il s'engage à respecter en quelque sorte les traditions juives et où il s'engage à être un adulte responsable devant la communauté. Il rentre dans la communauté. Là, il compte parmi les 10 hommes à partir de 13 ans. Voilà. Et puis, je passerai très rapidement sur le mariage. Le mariage, bon, comme dans toutes les religions, il y a le mariage civil et le mariage religieux. Le mariage civil à la mairie, comme tout le monde, le mariage religieux à la synagogue. Mais ce qui est le plus important, et ça il faut le dire, il faut le souligner, c'est en quelque sorte ce que l'on appelle chez nous le dernier devoir. Qu'est-ce que c'est que le dernier devoir? C'est en quelque sorte lorsque un juif ou une juive meurt, nous sommes là, même s'il n'a jamais assisté aux offices, même s'il a déserté la synagogue, mais au dernier moment, s'il demande à être enterré comme un juif, on va faire le dernier devoir, on va l'enterrer en qualité de juif. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous le dernier devoir, laisser venir à nous, en quelque sorte, la brebis égarée. Hein, c'est un petit peu ça. Je dois dire que ce qui est important aussi, c'est en quelque sorte la possibilité de perpétuer nos traditions au travers même de la mort. Alors, je m'explique. Nous rendons toujours hommage à nos anciens qui sont décédés. Pour deux raisons. D'abord, c'est une question de respect filial et en même temps parental. Mais en même temps, si vous voulez, c'est une façon de montrer aussi à nos enfants ce que l'on a pu faire pour les anciens. Alors, dans ce qui est la pratique même
de l'enterrement, j'insiste hein, sur ce point-là. Lorsque l'enfant de 13 ans fait sa bar mitzvah, on va le ceindre d'un châle. Un châle qu'on appelle un talit, que je vais vous montrer là, très rapidement. Je pense que... Voilà. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un talit. Le jour de sa communion, c'est-à-dire le jour de sa bar mitzvah, on va lui mettre ça autour des épaules, on va le faire monter à la théba, on appelle ça la théba, pour qu'il puisse lire dans le livre, dans la Torah. C'est là où il s'engage en tant qu'adulte. Et lorsque cet enfant de 13 ans arrivera à, j'espère, 90 ans, lorsqu'il ou 100 ans, ou 110 ans, puisqu'il y a des vétérans, donc il va décéder, et le jour de sa mort, les fidèles, tous les fidèles, sans exception, vont lui rendre hommage. Comment ça? On va d'abord, on va lui reprendre son talit. Le talit. T-A-L-E-T-H. Talit. Hein? On va le. Chez nous, on n'habille pas les morts. Hein? Les morts sont tout de suite, sont complètement nus, et on les recouvre d'un drap blanc. Sur le drap blanc, on va lui remettre son talit, et vous voyez qu'il y a des franges. Ces franges-là, ce sont les 700, il y en a 770, 760, peu importe, c'est en quelque sorte deux bonnes actions par jour, dans l'année. Un juif doit faire deux bonnes actions. Et il y a ici quatre, vous voyez, quatre petits cordonnets. À chaque coin, voyez, je vais l'ouvrir, voyez, voilà, c'est ça. À chaque coin, 1, 2, 3, 4, le jour de sa mort, on va couper ses cordonnets parce qu'il n'a plus la possibilité de participer à un office. Il est mort. Donc on va lui couper ce qu'on appelle les sissites. On appelle ça les sissites. Donc on les coupe et. Voilà donc la possibilité que l'on a de rendre hommage à nos morts.
Et si jamais il a égaré son talit?
Ah ben, il a, soit on lui on en a d'autres. Donc, c'est pas forcément son propre talit. On peut en trouver un autre. Je prends mon exemple. Lorsque j'ai fait ma bar mitzvah, j'avais laissé mon talit... au temple pour aller faire mes prières rituelles. Et puis, c'était pendant les années de guerre d'Algérie, c'était en 1900, je me souviens très bien, en 1956-57, vous voyez donc, et des malveillants ont mis le feu à la synagogue. Donc, mon talit, toutes mes affaires ont brûlé. Mais donc, on m'a donné un autre talit, et je serai enterré donc avec ce talit sur moi. Voilà. Hein? D'accord? Donc, et ce qui est très important, c'est que lorsque un papa meurt ou une maman meurt, les enfants lui font ce qu'on appelle l'anniversaire tous les ans. C'est ce qu'on appelle un nesgir chez nous. Un nesgir, c'est-à-dire qu'on va demander à la communauté d'aller au cimetière et d'aller lui faire une prière pour se rappeler. Et c'est comme ça que l'on transmet aux futures générations, en quelque sorte, la possibilité de perpétuer, si vous voulez, la religion. Voilà. En gros, si vous voulez, les différentes étapes d'un enfant juif, même d'un adulte. Hein.